Eh bien, bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. C'est Ben OFX pour la chronique jeu du mois. Je suis, comme à mon habitude, accompagné de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Bonjour Ben OFX.
Et comme d'habitude, on va vous présenter ce mois-ci deux jeux. Donc pour ma part, je vais vous présenter Evolution. Et pour Cyrus, ce sera...
Moi, je vais vous parler de Rush and Bash.
Rush and Bash.
Alors, on va être un peu aux antipodes. On repart dans nos habitudes du début, avec un jeu un peu plus costaud et un jeu un peu plus léger. Il y en aura pour tous les goûts.
Sachant qu'Evolution, c'est un jeu costaud, mais qui est assez épuré au niveau mécanique quand même et au niveau matériel. Du coup, tu commences ?
Ah, comme tu veux.
Bah vas-y, on t'écoute.
On commence léger alors. Alors on va parler de Rush and Bash. Donc Rush and Bash, c'est un jeu de Eric Burigo, qui est illustré par Guido Favaro. Alors là, aux sonorités, vous aurez peut-être compris qu'il s'agit d'un jeu italien. C'est un jeu qui a été édité par Red Glove. Alors c'est pas un éditeur qu'on connaît trop par chez nous. En fait, c'est un éditeur. Alors, les jeux qu'on peut connaître par chez nous, il y a Jérusalem qui avait été distribué, il me semble, à l'époque par Oya. Je sais pas si ça te parle, toi.
Jérusalem, non, pas du tout.
Non, bon, c'est pas grave. Moi, j'y avais jamais joué non plus. Voilà, il y a pas beaucoup de jeux qui transitent par chez nous de cet éditeur. Il y en a quelques-uns. Et ils transitent tous, je crois, par Intrafin, hormis Jérusalem.
D'accord.
Et donc, c'est par Intrafin que ce jeu arrive chez nous en France.
Très bien.
Rush and Bash, c'est un jeu de course, mais ça n'a rien à voir avec Flamme Rouge, je vous rassure tout de suite. C'est un jeu de course aussi, mais ça n'a rien à voir. C'est un jeu plutôt qui va reproduire les sensations de Mario Kart.
D'accord.
Alors, pour ceux qui auraient écouté, j'ai réalisé une interview j'ai fait une interview sur les Jeux du Stan, donc un petit festival qui avait été organisé à Nancy, et j'avais eu j'avais eu l'opportunité d'interviewer Christophe d'Intrafin, donc qui est le responsable France d'Intrafin, et qui présentait justement Rush and Bash sur le stand. Donc j'avais essayé le jeu, ça m'avait plu, du coup je l'ai acheté quand il a été disponible en France, c'est-à-dire assez récemment. Malheureusement, je viens de voir. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais malheureusement, je viens de voir ce soir que le jeu était déjà plus disponible chez Philibert. Bon,
bah, ça arrive souvent avec les jeux qu'on présente. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça prouve peut-être qu'on a
choisi les bons jeux.
Un nez fin, ouais, ou en tout cas que d'autres l'avaient avant nous aussi, puisqu'ils ont acheté le jeu. Mais bon, bref. Donc c'est un jeu qui reproduit un peu les sensations de Mario Kart, c'est-à-dire que ça va être un jeu de course. Avec une course assez délirante où on va pouvoir balancer des missiles, on va pouvoir poser des bombes derrière soi, on va pouvoir se rentrer dedans, on va pouvoir voilà, c'est un jeu assez chaotique, ça il faut en avoir bien conscience dès le départ. Malheureusement, le jeu reprend pas la licence Mario Kart parce que j'imagine que c'était peut-être un peu cher, je sais même pas s'ils ont été demandés, mais bon.
Ouais, ça aurait pu être rigolo.
Ouais, franchement, ça aurait pu être vraiment chouette. En fait, j'ai vu une sorte de fan art sur BGG, quelqu'un qui avait refait donc en fait dans le jeu, il y a des plaquettes avec des personnages qui sont sur leur voiture, et en fait la personne avait refait ces plaquettes mais avec les personnages de Mario Kart.
D'accord.
Et ça rendait vraiment chouette quoi. Là en fait on va avoir un design plutôt orienté un peu plutôt fou du volant. Du coup, on reste un peu dans la même thématique.
D'accord.
On a un trait qui ressemble un petit peu à ce vieux dessin animé, pour ceux qui connaissent. Sinon, pour les autres, il va falloir aller faire un coup de Google.
Ça aurait pu être une licence sympa aussi.
Ça aurait pu être une licence sympa aussi.
Peut-être un peu
cher aussi. Effectivement.
Moins cher que Mario Kart, je pense.
Je pense, ouais. Je pense moins cher que Mario Kart, mais effectivement un peu plus old school, et peut-être qu'il aurait me parlé un peu moins large public.
Ouais.
Alors dans la boîte de Rush and Bash, on va trouver des tuiles qui vont nous permettre de construire un circuit. Donc on va pouvoir construire son circuit à façon. On va avoir des jetons qui vont représenter notre voiture, notre véhicule avec notre personnage. Et puis on va avoir une foultitude de matériel qui va nous permettre en fait de customiser un peu notre circuit. Et puis des cartes. Le principe du jeu, ça va être d'avancer avec ses cartes. C'est-à-dire qu'à chaque tour de jeu, chacun notre tour, on va, en commençant par le premier sur la grille, le premier sur le circuit, quoi, on va jouer une carte de notre main, et à la fin de notre tour, on va en repiocher une. Donc là, pour les mécaniques, Sincèrement, c'est pas le point fort du jeu. C'est assez simpliste. Donc on joue une carte. Sur cette carte-là, il y a 5 effets possibles. Enfin, il y a un effet parmi 5. L'un d'eux va vous permettre de tourner, tout simplement. Parce qu'il va, généralement, il va y avoir 3 voies sur le circuit. Le seul moyen de tourner, c'est de jouer une carte comme ça. Enfin, le seul moyen de changer de voie, en tout cas, c'est d'utiliser une de ces cartes. On va avoir la possibilité de lancer un missile. Dans ce cas-là, on va lancer un missile droit devant soi. Donc, il va suivre la voie sur laquelle on se trouve. On va pouvoir poser une bombe. Là, on va pouvoir poser une bombe sur n'importe quelle case qui nous est adjacente. On va pouvoir se réparer. Parce qu'évidemment, qui dit bombe et missile dit dégâts.
Dégâts, ouais,
On va pouvoir s'en prendre plein la gueule. Et
ok.
croyez-moi, on s'en prend plein la gueule. Et puis il y a une dernière carte qui est une étoile en fait. Donc là, attention, petit clin d'œil encore
Un Mario
à
Kart.
Mario Kart. Une étoile qui permet en fait de monter sur une sorte de jauge de puissance et qui va nous permettre d'activer des pouvoirs spéciaux qui sont propres à chaque véhicule. Donc dans la boîte, il y a six, on peut jouer de 2 à 6. Et donc il y a 6 personnages, il n'y en a pas de plus. Et le but du jeu, évidemment, c'est d'arriver le premier à la fin du circuit.
C'est pour combien de joueurs du coup? C'est 2 à 6?
De 2 à 6, oui. C'est
Ok.
de 2 à 6 joueurs. Alors évidemment, quand on joue à 2, c'est, bah, y a un peu moins de fun que quand on joue à 6. Mais il y a une variante qui est proposée qui permet de jouer quand même avec les 6 véhicules qui sont joués en mode fantôme. Et pour avoir essayé, bah, ça marche pas trop mal en fait. Parce que, alors ça rajoute du chaos, parce que évidemment ils ont un comportement qui est complètement erratique. En fait, c'est simple, hein, pour les jouer, on pioche une carte du dessus du paquet, et puis bah, on la joue, quoi. Donc les voitures, elles font parfois un peu n'importe quoi. Mais finalement, on se retrouve des fois à ce qu'elles soient devant. Enfin, c'est franchement, ça fonctionne. Ça rajoute un peu. Forcément, si vous jouez à 3 et que vous restez à 3, ou alors que vous jouiez à 3 et vous rajoutez 3 fantômes, évidemment c'est un petit peu plus long à jouer, mais c'est pas non plus rédhibitoire quoi. Ça reste ingérable. Alors donc le principe, ça va être de construire son circuit. Il y a des tuiles qui ont des effets un peu particuliers. Donc il y a 12 tuiles dans le jeu qui sont recto verso. Donc on va pouvoir assembler jusqu'à un circuit qui fait 12 tuiles. Bon, sincèrement, moi, je recommande de rester à 6 tuiles. J'ai essayé, bon, j'avoue, j'ai essayé qu'une seule fois, hein, de monter à 8 tuiles. Parce qu'en fait, il y a des tuiles spéciales qui marchent par deux. Et quand on les assemble, ben, en fait, on n'arrive pas à faire un plateau de 6 qui se boucle. Le principe, normalement, dans la règle du jeu, il est indiqué que le départ doit être aussi l'arrivée.
D'accord, ça doit être un circuit, quoi.
Voilà, ça va être un circuit fermé. Donc, du coup, quand on a des tuiles qui permettent pas de, enfin, il y a des tuiles qui permettent pas de faire un circuit fermé de façon simple. Ou alors, il faut utiliser le pont qui est disponible dans le jeu. Mais bon, et encore que je suis même pas sûr que ce soit faisable. Du coup, j'avais voulu ajouter des trucs, j'avais voulu ajouter pas mal de trucs, et du coup, ça faisait un circuit à 8 tuiles. Et on est arrivé au bout d'une heure, on n'avait pas fini. On jouait à 3 avec 3 fantômes. Bon, ça a été hyper chaotique en fait, parce qu'on vraiment on a en fait il faut savoir que notre véhicule a 3 points de vie, et donc quand il arrive à
À
0,
zéro.
il fait une sortie de route, et du coup on recule sur la grille, enfin on recule sur le
D'accord.
circuit, on recule jusqu'à un checkpoint qu'on a passé précédemment. Et bah, dans cette partie-là, on a accumulé le nombre de retours arrière de façon hallucinante quoi.
Vous êtes pourri, quoi.
On s'est bien bien pourri, on s'est bien fait pourrir aussi par les bots, parce que l'air de rien, les bots quand ils activent des effets sur le circuit, c'est un joueur qui va les jouer à sa place.
D'accord, ouais, donc c'est
On l'a,
dirigé quand même, quoi.
ouais c'est ça, c'est du coup c'est dirigé, et le truc que j'avais ajouté, c'était pas complètement aléatoire sur le, enfin il y avait un personnage en fait qui se déplaçait sur le circuit. Qui se déplaçait, en gros, qui traversait le circuit. Et du coup, quand il rentrait dans quelqu'un, grosso modo, ça occasionnait des dégâts. Du coup, tu pouvais facilement le faire aller, le faire revenir, et baisser de 3 fois, enfin, baisser de 2 ou 3 points d'un coup, un véhicule adverse, quoi. Donc, c'était assez violent.
Tu m'étonnes. Et du coup, tu parlais d'un pont, c'est un vrai petit pont en 3D ou...
Oui, alors il y a des composants 3D qui permettent d'avoir un peu de relief. Donc il y a un pont comme ça, il y a un volcan, qui permet de. Bah, après, il y a une tuile volcan, donc après ça, c'est un système, soi-disant, voilà, on peut se prendre de la lave, donc il y a un petit volcan 3D pour représenter ça.
Ouais, c'est rigolo, ça, c'est un petit côté fun et immersif qui est pas mal.
Oui, alors il y a ces éléments 3D comme ça qui rajoutent un petit peu d'immersion et qui rendent le truc un peu joli. Malgré tout, moi je dois avouer que je suis pas super fan des graphismes, en particulier du plateau de jeu, quoi. Les composants sont pas d'une extraordinaire qualité. Maintenant, ils sont assez quand même, enfin, ils sont assez abondants dans la boîte. Le jeu, il est à 22,50 chez Philibert, donc c'est quand même pas cher. Mais tu vois les petites voitures, bah c'est des petites voitures, ce qu'il peut y avoir de plus simple en plastique.
Ouais. C'est pas des kartings avec un personnage dessus, quoi.
Voilà, oui, c'est ça. Ça doit ressembler un peu au Formule 1 qu'on doit trouver dans les vieilles versions de Formula D, un truc comme ça, quoi. J'ai pas trouvé de comparatif, mais voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça fait le job et il y a quand même, enfin, il y a de quoi faire dans la boîte, quoi, parce que avec les 12 tuiles, voilà, si je vous dis, il faut en mettre 6 pour faire un circuit correct et qu'on reste dans un temps de jeu raisonnable vis-à-vis du poids du style de jeu que c'est, ben ça fait quand même un paquet de circuits possibles, quoi. Ce que j'ai pas expliqué aussi, c'est que comme dans Mario Kart, il y a un système de rééquilibrage dans le jeu. En fait, quand on est dans les premiers, on va à la fin de notre tour, on va piocher dans un tas de cartes qui est verte. Voilà, c'est des cartes vertes qui permettent en fait d'avancer de 1 à 3. Allez, j'ai peut-être pas tout à fait fini tout à l'heure, mais bon, bref, on a un petit effet sur les cartes. Donc j'ai dit qu'on n'est pas obligé de jouer. Donc tourner, lancer un missile, poser une bombe, voilà, etc. Et ensuite on avance notre karting.
D'accord. Ah oui, je pensais que du coup avancer c'était une carte parmi.
Non, oui, pardon. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'étais pas très clair. Et en fait donc au bas de la carte il y a un chiffre. Donc, de 1 à 3 pour les cartes vertes et de 3 à 5 pour les cartes rouges. Donc quand on est à la traîne, donc grosso modo on pioche des cartes rouges.
Et on avance plus vite du coup.
Voilà, on va pouvoir avancer potentiellement plus vite.
D'accord.
Alors ça crée en général beaucoup de rééquilibrage, effectivement. Le joueur de derrière il va finir par repasser devant, etc. Pour autant le jeu il est pas exempt de hasard. J'ai déjà aussi réussi à faire une course en tête d'un bout à l'autre. Voilà, parce que simplement les joueurs derrière moi ils avaient vraiment pas de bol, ils se sont pourris les uns les autres. C'est possible aussi. C'est plutôt rare. Les autres parties que j'ai fait en général, ça se bataille pas mal et souvent même sur la, on croit qu'un joueur va gagner et il gagne pas.
Ouais, j'allais dire cette histoire de carte qui permet d'avancer plus vite, genre si t'es dans les derniers mais t'es pas loin du premier, en fait sur les derniers tours ça peut te faire passer la ligne avant, non?
En fait c'est pire que ça, c'est pas tant encore ces cartes là elles permettent juste de faire en sorte que tu sois pas trop largué dans la course. Ouais. Les joueurs restent dans un
intervalle,
dans un espace
correct,
voilà, resserré, mais enfin la plupart du temps on voit des écarts qui se créent quand même sur la fin. Sauf que ce que j'ai pas encore expliqué, c'est que, enfin, j'ai dit que les personnages avaient des pouvoirs spéciaux en quelque sorte. Et donc on va monter une jauge au fur et à mesure qu'on va soit jouer des cartes avec des étoiles, soit faire des sorties de route. Quand on fait une sortie de route, on monte aussi un peu sa jauge. Et quand cette jauge-là atteint le maximum, donc qui est un niveau 3, on bénéficie d'un pouvoir qui est en général bien bien bourrin, du style j'avance de 12 cases. Sachant que tu peux en plus jouer ta carte derrière, hein. Donc t'imagines, j'avance de 12 cases et après je joue une carte qui me fait avancer de 5, ça fait 17 cases. Quand le mec de devant il se traîne des 1, des 2 et des 3 dans le meilleur des cas depuis plusieurs tours. Parce que je vais te dire, quand t'es premier et que ça fait un paquet de tours que t'es premier, tu te traînes vraiment des cartes de merde et t'as vraiment l'impression de pas avancer, quoi.
Tu m'étonnes.
Alors quand l'autre derrière il vient de se prendre une étoile, il sort une étoile de son chapeau et qu'il avance de 12 cases, tu fais la gueule, quoi. Enfin voilà, bref. Mais c'est vraiment, moi j'ai trouvé que ça reprenait vraiment les sensations de Mario Kart. C'est assez impressionnant, ouais. Parce que je pensais pas réussir à trouver ça dans un jeu.
C'est bien retranscrit, ouais.
Ouais, c'est bien retranscrit, même si les mécanismes sont assez old school, sont pas très innovants, ils sont pas super intéressants, il faut quand même l'avouer, bah ça marche bien. Et pour jouer en famille, bah ça marche du tonnerre, quoi.
Oui, c'est vrai que les jeux de course, c'est souvent des simulations assez fermées, on va dire, à ceux qui aiment le sport, la Formule 1, le rallye, le vélo. Et puis là, c'est pas forcément très fun. Là, c'est un jeu de course, mais qui a l'air vraiment, pour le coup, très fun, quoi.
Ah, c'est que c'est ça joue vraiment là-dessus. Mmh. Alors il y a eu des essais parce qu'il y a eu Titan Race par exemple, oui. chez Funforge qui surfait aussi un peu là-dessus. Moi j'ai jamais joué à Titan Race. Vraiment je m'étais renseigné sur le jeu. Ce que j'avais pas trop aimé, c'est que y a un système de circuit. En fait tu vas faire 3 tours de circuit, sauf que le circuit c'est une planche sur lesquels il y a enfin c'est une sorte de damier en fait finalement, une sorte de damier et potentiellement tu peux aller sur toutes les cases.
Ouais.
Et quand t'es arrivé au bout, bah tu reviens au début. Toi c'est comme si le principe en fait c'est comme si c'était une planète, comme si ton carré c'était une planète et que, du coup quand t'arrives à un bout bah tu repars en fait tu boucles quoi. Tu vois, quand tu arrives au nord, bah, tu reviens au sud.
Ouais.
Quand tu passes à l'ouest, en fait, tu reviens par l'est, etc., etc. Du coup, t'as pas cette impression de progression comme tu peux l'avoir sur un vrai circuit.
Ouais. Ouais, c'est clair.
Ouais. Après, je pense qu'au niveau chaos, etc., on doit retrouver un peu ça. Et puis, c'était un univers beaucoup plus typé, quoi. C'était des titans sur des planètes, effectivement. Donc, tu vois, on s'éloigne beaucoup de Mario Kart et du petit côté Madeleine de Proust que ça représente pour des joueurs comme moi, par exemple.
Ouais.
Et je crois que dernièrement, il y a eu aussi Crazy Kart. Voilà, je sais pas trop quand il en retourne. J'ai pas essayé, j'ai lu des critiques de Crazy Kart où en gros on disait que c'était assez calculatoire, qu'il y avait pas trop de fun dedans, donc du coup j'imagine que ça doit pas bien bien marcher dans le même, enfin ça doit pas être dans le même esprit quoi.
C'est un jeu édité Crazy Kart
chez Portal je crois.
D'accord, ouais, j'ai pas vu passer non plus.
C'est par son auteur et une des personnes de Super Meeple.
D'accord.
Un des éditeurs de Super Meeple.
D'accord.
Alors il y a déjà des extensions qui existent pour le jeu. Il y a déjà une extension qui est disponible en... Enfin, disponible. C'est pareil, visiblement elle est en rupture aussi. Mais il y a une extension qui s'appelle Winter is Now qui permet de jouer jusqu'à 8 joueurs. Qui rajoute des effets, qui rajoute des tuiles de circuit, etc. Et qui rajoute évidemment du coup ben deux personnages.
D'accord.
Pour pouvoir jouer jusqu'à 8. Dans une petite boîte, ça doit être une quinzaine d'euros que j'ai pas vu chez Philibert, mais que j'ai vu sur le site d'Intrafin. Ils sont censés le distribuer prochainement. Voilà, mais il est marqué rupture sur le site d'Intrafin, donc je sais pas si ça veut dire en fait qu'ils sont plutôt en approvisionnement et que voilà, ils ont pas d'autres qualificatifs que rupture. Je sais pas, je saurais pas dire. Et j'ai vu sur le site de Red Glove qu'ils avaient une deuxième extension qui est sortie donc en Italie a priori, donc qui s'appelle Monster Chase. Alors sur celle-là je sais pas grand chose, mais visiblement il y a des véhicules supplémentaires, donc des monster trucks ou je sais pas trop quoi qui participent aussi à la course et qui doivent foutre un peu le bazar si j'ai bien compris, parce que j'ai l'impression que ça c'est pas joué par des joueurs quoi. Voilà un peu, donc c'est un jeu qui visiblement a une vie au-delà
succès,
qui a une vie au-delà du jeu de base quoi, qui doit fonctionner sûrement en Italie du coup. Je sais pas jusqu'où c'est distribué, mais voilà. Bon, en tout cas moi je vous invite à jeter un coup d'œil. Alors c'est un jeu qui est pas exempt de défaut, c'est clair, mais moi j'ai passé des très bons moments à jouer à ce jeu-là dernièrement. Et si Mario Kart c'est un truc qui vous parle, jeter un coup d'œil à Rush and Bash parce que ça devrait vous plaire.
Ouais, moi j'essaierai bien de ces 4 quand même.
Écoute, je vais la ramener au week-end pour que c'est joué parce que je compte lancer peut-être une sorte de défi.
Un tournoi
course en fait. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui a Formula D ou un truc du style Et puis après, on va faire un tournoi avec format coupe, tu vois. On va démarrer à 8, puis à 6, puis 4, puis faut que je trouve un jeu aussi pour 2 à la fin.
Ah, j'avais Rallyman, mais je l'ai revendu.
Ah, je l'ai aussi, Rallyman.
Ah.
Ça peut se faire, Rallyman, pourquoi
Ouais.
pas,
Ouais, c'est pas
effectivement.
mal.
Pour la partie à 2, peut-être, parce que il n'y a pas besoin d'être forcément nombreux à Rallyman
Non, c'est
pour
ça
bien
qui est bien,
s'amuser.
ouais. Ouais.
Rayman, très bon jeu de course aussi, mais dans un esprit très très différent.
Ouais.
Donc voilà pour Rush and Bash, donc un jeu de Eric Burigo, illustré par Guido Favaro, qui a illustré, enfin il a participé à Coloretto, mais ils sont plusieurs sur Coloretto, je ne saurais pas dire ce qu'il a fait, et donc Jérusalem aussi. Je parlais de Jérusalem pour Red Globe, mais en fait il se trouve que l'illustrateur a aussi œuvré sur Jérusalem. Édité chez Red Glove et disponible en France, du coup, alors c'est pas vraiment localisé par Intrafin, hein, parce qu'il y avait une version multilingue en 4 langues
D'accord.
chez Red Glove, et en fait ils avaient fait un premier tirage donc en 4 langues, je crois que c'était déjà en 2016, si je dis pas de bêtises, début 2016. Et Intrafin en avait pris quelques-uns apparemment, mais c'est parti vite. Enfin, en fait, ils m'ont dit, ah, on en avait pris, mais on les a tous vendus, voilà. Bon, mais je pense qu'ils n'en avaient pas pris beaucoup, parce que vraiment, je n'ai jamais entendu parler de ce jeu avant là dernièrement. Et donc là, ils ont refait un tirage, mais uniquement anglais-français. En
D'accord.
fait, Christophe d'Intrafin m'avait dit qu'ils allaient faire un tirage français uniquement, et finalement bah, quand j'ai vu la boîte arriver, finalement c'était une boîte avec deux
Franco-anglaise.
langues, ouais, quand j'ai acheté, bah, finalement il y avait deux langues, j'ai dit bah tiens, c'est bizarre, ils ont changé d'avis entre temps, ce qui explique peut-être le délai, parce qu'au départ c'était censé sortir fin novembre, il m'avait dit, et moi je l'ai eu en mars, je crois, donc
D'accord.
bon, voilà. Pour la petite histoire, et donc disponible peut-être un jour bientôt chez Philibert à 22,50 €.
Quand ce sera réapprovisionné.
Voilà. Ce qui devrait. Alors, il y a des chances que ça arrive quand même, parce que hasard aussi du calendrier, il se trouve que j'ai vu que sur Trick Track, alors j'ai vu qu'ils avaient tourné une vidéo. Mais en plus, là dernièrement, Monsieur Guillaume a fait un article et lui a attribué son Guillaume Approved, enfin je sais plus comment ils appellent
Ouais.
leur truc là.
Ouais, c'est ça, c'est approved.
Voilà, donc ça draine pas mal, hein, enfin je sais pas s'ils veulent bien l'admettre, mais je pense que les éditeurs ils vont courir un peu après ces Trick Track approved, etc., parce que
Ouais, ça.
ça doit faire un peu de buzz, quoi.
C'est une belle vitrine, ouais.
Donc ils ont intérêt à réapprovisionner.
C'est sûr. Puis en
Donc
plus,
voilà.
maintenant, ProxyJean en parle, donc
Ah oui, il va
c'est
falloir
sûr qu'il
d'autant plus réapprovisionner.
y a des dizaines de milliers de personnes qui vont vouloir l'acheter.
Ah, c'est clair. Ça va être la panique là. Le nombre de demandes chez Philibert là. Je suis désolé, hein, franchement, je suis désolé les gars. Allez, bah écoute, je vais te laisser la parole pour que
Ça
tu nous parles
marche.
d'évolution.
Oui, on va parler d'évolution. Alors, Evolution, c'est pas très simple, c'est pas un jeu de illustré par, édité par, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un jeu qui a une histoire. En fait, il y a une première version du jeu qui est russe, en fait, qui s'appelle Evolution, The Origin of Species, de Dimitri Knorr et de Sergei Machine, qui sont en fait deux biologistes russes qui voulaient un outil un peu ludopédagogique pour expliquer le phénomène d'évolution des espèces, savoir comment les espèces se sont adaptées, et en fait ces adaptations au milieu, à l'environnement, etc., ont fait que différentes espèces ont vu le jour. Donc c'est un jeu qui a été créé par ces deux biologistes russes et qui a été édité en Russie par Riot Games en 2010, du coup, la première version.
Et c'est un jeu. Alors effectivement, on en a vu. Je suis désolé, ouais,
Ouais, vas-y, vas-y.
j'en avais entendu parler au moment de sa sortie à Essen, de ce jeu, parce que bah moi ça m'avait interpellé, parce que je suis biologiste de entre guillemets de
De formation.
formation initiale, ouais. Très très initial et du coup ouais c'est un thème qui m'interpellait et j'avais eu un retour, c'est Merlin qui en avait reparlé de jeu et qui avait dit que c'était absolument nul Voilà, alors, je te laisse continuer l'histoire.
Ouais, donc ça c'était en 2010, et en fait, y a un auteur américain, Dominique Crapuchet, qui est aussi un joueur professionnel de Magic, hein, pour ceux qui ont suivi un peu ça, qui est tombé sur le jeu et qui a trouvé le principe super super intéressant. Alors je sais pas s'il a aimé le jeu ou pas, si le jeu était si nul que ça, mais en tout cas il a décidé en 2012 d'acheter les droits pour ce jeu, d'acheter les droits pour le monde entier, et en fait il a commencé à développer sa propre version de ce jeu là. Donc il a acheté les droits du jeu d'origine et il a commencé à développer sa version. Par contre, il a dit aux auteurs russes qu'eux avaient tout à fait le droit d'exploiter leur version à eux et de continuer à la développer en Russie. Mmh. Et il a aussi donné à Riot Games, je crois, sa version à lui pour la Russie, en fait. L'édition de sa version à lui pour la Russie. Mmh. Et donc, ce jeu, cette version de Dominique Crapuchet, est sorti en 2014 via une campagne Kickstarter. Chez North Star Games, je crois, donc un éditeur américain. Et donc cette version a un petit peu buzzé, hein, y a eu un joli succès sur Kickstarter. C'est en plus joliment illustré par Catherine Hamilton, donc c'est une naturaliste aussi, donc voilà, c'est des gens qui sont quand même dans le milieu un peu, donc ça donne du cachet et puis on va dire de la valeur au jeu.
Donc, j'aime beaucoup le graphisme, effectivement.
Ouais,
il y a un côté,
c'est assez particulier, c'est des aquarelles, donc c'est des aquarelles, c'est des couleurs assez... assez pastel, assez...
C'est pastel, mais ça donne un effet flashy, en fait, aux animaux.
Oui, c'est ça, c'est très très coloré, en fait.
Ouais,
c'est des aquarelles,
pas l'habitude,
et c'est très coloré. Donc c'est assez sympathique, je suis d'accord. C'est particulier, hein, c'est vraiment très coloré. Ça peut être un peu chargé, parfois, hein, ceux qui aiment quand c'est assez épuré, là, c'est pour le coup, ça fourmille un peu de détails. Donc ça c'est la version Kickstarter qui est sortie en 2014, qui a eu un joli succès. Donc en 2015 il y a eu un nouveau Kickstarter pour financer le retirage, et ce retirage a été accompagné d'une première extension qui s'appelle Flight. Donc je vous expliquais, moi, le jeu de base tout à l'heure, hein, mais voilà, il y a une première extension, en fait. Pour expliquer rapidement avant de rentrer dans le détail, on va créer des espèces et on va leur ajouter des traits, en fait, des caractéristiques particulières. Donc la première extension Flight, ça permet de rajouter des caractéristiques liées à des animaux qui volent. Donc ça c'était en 2015. En 2016, un nouveau Kickstarter pour une nouvelle extension qui s'appelle Climate. Donc là, j'ai pas joué aux extensions, moi, mais là, ça joue plus sur justement le climat. Il y a des conditions un peu différentes. Enfin, ça fait évoluer un peu plus le jeu. Flight changeait pas du tout la mécanique de jeu. Je crois que Climate amène des éléments nouveaux dans les mécaniques de jeu.
Bah, je crois que justement, ça amène des éléments de climat, justement.
Et voilà, c'est ça. Et qu'il faut s'adapter.
Au climat. Tes espèces, elles vont subir des événements climatiques auxquels elles seront plus ou moins préparées.
Un peu comme ce qu'on pouvait avoir dans Evo, si vous avez joué à Evo.
Ouais.
Et donc la version de base, évolution, et les futures extensions aussi arrivent cette année, enfin sont arrivées cette année chez Funforge pour la version française. Donc voilà, j'avais déjà vu passer le jeu en version anglophone. Il y avait eu d'ailleurs une Trick Track TV aussi que j'avais regardé où ils expliquaient le jeu avant que ça arrive en français. Hein. Il y a des Trick Track, je sais plus, il y a un mec chez Trick Track qui aime bien expliquer un peu les jeux qui marchent bien du côté américain. Et donc j'avais vu passer ce jeu, ça m'intéressait bien. Et là, bon, bah, j'ai eu l'occasion de faire une ou deux parties depuis que c'est arrivé chez Funforge. Et donc, Evolution, c'est quoi ? Donc Evolution, c'est un jeu qui, ma foi, dans les mécaniques est assez malin, parce que on va surtout utiliser des cartes. En fait, il y a 127 cartes ou 129 cartes, je crois, dans le jeu, 129, qui sont des cartes traits. Donc comme je vous l'ai dit, les cartes traits, c'est des cartes caractéristiques qui vont permettre de faire évoluer votre espèce. Ces cartes, en fait, vont servir à faire toutes les actions dans le jeu. Tous les joueurs vont partir avec une espèce de base. Donc dans la boîte, il y a des plateaux espèces. Donc ces plateaux espèces, c'est des petits plateaux sur lesquels il y a deux colonnes, en fait. Il y a une colonne nombre d'individus de l'espèce. C'est-à-dire vous allez partir avec un seul individu de votre espèce et la taille de l'espèce. Donc c'est des échelles qui vont de 1 à 6, si ma mémoire est bonne.
Ouais,
et donc
ça.
Vous allez pouvoir faire augmenter le nombre d'individus de votre espèce jusqu'à 6 individus et la taille, donc la taille de vos individus de 1 à 6. Donc vous partez, tout le monde part avec une seule espèce, avec un individu et de taille 1, et avec une main de carte, en fait, qui en fait on part avec 4 cartes, puisqu'on part à chaque tour avec 3 cartes plus une carte par espèce que vous avez. Donc comme on commence avec une espèce, on commence avec 4 cartes. Donc ces cartes vont vous servir à faire des actions. Au milieu de la table, il y a le point d'eau. Le point d'eau, en fait, c'est là où il va y avoir de la nourriture. Les espèces, par défaut, sont des espèces herbivores, donc elles vont venir au point d'eau, en fait, pour manger. Le but du jeu, c'est de récolter le plus de nourriture pendant le jeu, donc de manger le plus possible. Donc les traits, les différentes caractéristiques de vos animaux vont vous permettre de manger plus ou moins. Sachant que, en fait, pour un individu, vous allez manger une nourriture. Donc si vous augmentez le nombre d'individus de votre espèce, effectivement, vous allez pouvoir manger plus à chaque tour.
Donc potentiellement faire plus de points.
Potentiellement faire plus de points. Donc comment ça va se passer ? En fait, vous allez avoir vos 4 cartes en main au début de la partie. Et ces cartes vont avoir plusieurs choses. Déjà, elles vont avoir un nombre de nourriture en bas à droite qui va servir dans la première phase de jeu. Parce que la première phase de jeu, tout le monde va mettre une carte face cachée qui va représenter en fait le nombre de nourriture qu'on va mettre pour le tour au point d'eau. Donc on va se dire que bah, l'intérêt c'est de mettre le plus de nourriture possible. Et ben pas tout à fait en fait, puisque on peut créer des phénomènes de pénurie pour que toutes les espèces, et notamment les espèces de vos concurrents, ne puissent pas s'alimenter. Donc ça c'est la première phase, on sélectionne la nourriture et ça on les laisse face cachée sur le point d'eau jusqu'à la fin du tour. Ensuite, on va pouvoir jouer des cartes.
Tu les révèles, non ? J'ai joué ou les révélé ?
Je crois qu'on les révèle
les
à la
au début
fin
du tour.
Ah, je sais plus.
Ah bah alors ça sera intéressant parce que ça jouerait pas tout à fait pareil, mais bon, ouais. Bon après c'est un détail de règle. Mais bon, ok. Faites bien attention si vous avez déjà joué à Evolution. Visiblement, Beno FX et moi, on n'a pas joué pareil déjà.
Ouais, bah faudrait que je regarde nouveau la règle. Mais il me semble que moi, justement, on les révèle à la fin.
Moi, j'avais fait une partie à Essen, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, je crois. Je dis pas de bêtises. Avec la version en anglais, donc avec les règles expliquées sur le salon. J'avoue que je me rappelle plus comment on avait joué à ce moment-là. Et j'ai fait une partie, alors pareil, hasard du calendrier complet, parce que je savais même pas que t'allais chroniquer ça. J'ai fait une partie hier, on a joué comme je disais. Bon, après,
ouais, tu révèles les. C'est un point de règle à vérifier, mais en fait, ça permet, oui, effectivement, si tu les révèles tout de suite, ça permet de t'adapter en fonction du nombre de nourriture qu'il va y avoir au point d'eau. Si tu les révèles à la fin, ça veut dire que, bon, ben. Tu es un peu plus.
Ça veut dire que ta stratégie est un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Mm.
Bon,
ça peut faire une variante au pire.
C'est ça. Enfin bref, ça c'est la nourriture qu'il va y avoir à la fin du tour disponible pour les différentes espèces. Et ensuite, il y a une phase où on va pouvoir jouer des cartes. Donc là, le petit nombre de nourriture n'a pas d'importance. Alors j'ai oublié de dire, il y a des cartes où le nombre de nourriture est nul ou négatif.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins de nourriture que prévu,
que les gens
enlever de la nourriture. Sachant que la nourriture reste d'un tour à l'autre. C'est-à-dire que s'il y a des nourritures qui n'ont pas été consommées durant un tour, elles vont rester pour le tour suivant. Mmh. Et donc après, la deuxième phase du jeu, c'est de jouer des cartes. Donc jouer les cartes, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir jouer un trait, c'est-à-dire rajouter une caractéristique à notre espèce. Donc on a notre petit plateau d'espèce, on va pouvoir lui mettre jusqu'à 3 traits. Alors les traits, ils vont servir à quoi ? Ils vont servir, le but c'est de manger le plus de nourriture, donc ils vont servir soit à réussir à récupérer de la nourriture plus vite ou plus facilement, soit il y a un trait qui est très important, en fait il y a 129 cartes traits.
C'est le carnivore.
Voilà, il y en a 7 de chaque sorte, et il y a 17 cartes carnivores. Le carnivore, plutôt qu'aller manger... de l'herbe et du foin au niveau du point d'eau, vous allez bouffer les espèces des autres joueurs. Alors la condition pour attaquer un joueur, c'est que votre carnivore soit strictement plus gros en termes de taille, c'est pour ça qu'il y a une échelle de taille, pour pouvoir l'attaquer. À ce moment-là, si vous êtes plus gros, vous allez pouvoir manger un individu d'un de vos adversaires, donc vous allez récupérer une nourriture En fait, les nourritures sont recto verso. Il y a un côté herbe, un côté viande. C'est exactement la même chose, sauf que là, vous allez récupérer, plutôt que récupérer au point d'eau de l'herbe, vous allez récupérer une viande au niveau de la réserve générale. Et la personne à qui vous mangez un individu va devoir baisser sa population de 1. Donc c'est là, s'il a augmenté sa population à 4, il va la diminuer à 3. S'il n'avait qu'un seul individu dans son espèce, ben c'est une extinction d'espèce. Donc l'espèce disparaît et il repioche, je crois, autant de cartes qu'il avait de traits sur cette espèce. Donc si si le joueur avait mis deux traits sur cette espèce, il va repiocher deux cartes.
Et effectivement, enfin les carnivores, ils sont super importants dans le jeu parce qu'en fait c'est eux qui vont, enfin qui sont super intéressants dans la dynamique du jeu en fait, parce que c'est eux qui vont créer toute l'interaction du jeu, parce que le reste de l'interaction sinon il est assez indirect quoi.
Ouais, en fait les traits, donc comme je vous disais, la plupart des traits vont vous servir à acquérir plus ou plus vite de la nourriture. Et en fait ça va servir à créer des moteurs à nourriture. Comme la nourriture c'est les points de victoire à la fin, il faut en accumuler le plus rapidement possible. Donc les cartes traits, en fait les herbivores, s'ils sont très bien optimisés, ils vont pouvoir ramener beaucoup beaucoup de nourriture assez rapidement. Et donc les carnivores, c'est aussi un peu pour casser les optimisations des herbivores que certains pourraient faire. Donc les principaux traits, donc ça va être carnivore plus des traits qui vont vous permettre soit de récupérer de la nourriture plus rapidement, soit d'aider vos... En fait, il y a des traits qui vont être coopératifs, en fait, qui vont permettre à vos espèces voisines, ça je vais vous expliquer après, mais vous pouvez avoir plusieurs espèces d'un coup. Je vais expliquer comment, mais voilà, il y a les traits carnivores et il y a des traits qui vont être des traits en fait de protection contre les carnivores. Il y a des traits par exemple qui vont être, je crois que c'est grimpeur, qui voilà, donc vous allez évoluer pour aller dans les arbres, et donc les carnivores, s'ils veulent niaquer cette espèce là, ils vont devoir avoir le même trait, le trait grimpeur, pour aller la chercher. Voilà, donc il y a tout un tas de, je sais plus combien il y a de sortes de traits.
Ouais, je sais pas, il y en a bien une bonne vingtaine. Hein.
Ouais. Ouais, il y a une variété de traits. J'ai des exemples sous les yeux. Voilà, il y a aussi, il y a par exemple tissu graisseux, en fait, qui va vous permettre de stocker de la nourriture sur la carte de votre espèce, en fonction de la taille de votre espèce. Et donc, c'est tant qu'il y a de la nourriture au point d'eau, vous allez en récupérer pour manger. Donc ça va être des points qui vont être marqués tout de suite. Et s'il en reste à la fin du tour, vous allez pouvoir en stocker sur votre carte. Et du coup, au prochain tour, pour manger, avant d'aller chercher de la nourriture au point d'eau, vous allez manger les nourritures qu'il y a sur votre carte.
Tu vas dégraisser déjà pour commencer.
C'est ça. Il y a une espèce aussi qui s'appelle fouisseuse, qui, quand elle est rassasiée, c'est-à-dire que vous avez mangé suffisamment de nourriture, elle va se cacher et elle est plus attaquable par les carnivores. En fait, comment ça va se passer à la fin du tour, quand tout le monde aura joué ses traits? Donc, oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on peut jouer des cartes soit en tant que traits. Donc, les traits sont joués face cachée et sont révélés seulement à la fin du tour. Donc, vous ne savez pas, par exemple, si un joueur met un trait face cachée, vous ne savez pas très bien si à la fin du tour, il va se transformer en carnivore ou pas. C'est un peu l'effet de surprise aussi.
Ou si aussi quand on est carnivore, il va réussir à se défendre et que du coup on aurait dû jouer autre chose quoi.
Voilà, si on crée un carnivore et qu'en fait on peut manger personne parce qu'on n'a pas la taille suffisante,
c'est moche.
On va se faire avoir. Il va avoir une extinction de l'espèce puisque le carnivore pourra pas se nourrir. Ça je vais vous expliquer. Donc les cartes peuvent être jouées soit pour ajouter des traits à vos espèces, soit elles peuvent être défaussées. Donc si vous défaussez une carte, vous pouvez au choix soit augmenter de 1 le nombre d'individus de votre espèce, donc pour chaque carte défaussée vous pouvez augmenter de 1 le nombre d'individus, soit augmenter la taille, donc en défaussant une carte vous pouvez augmenter la taille d'une de vos espèces, soit en défaussant une carte vous pouvez aussi récupérer une nouvelle espèce, donc vous pouvez avoir plusieurs espèces en parallèle, donc votre nouvelle espèce arrive avec une population de 1 et une taille de 1 sans aucun trait, et en fait chacun son tour va jouer une carte et on va voir ce que les gens les uns et les autres font. Je mets un trait face caché, lui il augmente sa taille, il se dit peut-être que moi j'ai mis une carte carnivore, donc pour se défendre il va augmenter sa taille, l'autre va augmenter sa population pour récupérer plus de nourriture, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, et ainsi de suite, donc chacun joue une carte à tour de rôle jusqu'à que tout le monde est passé.
Non, ça non plus on n'a pas joué pareil.
C'est vrai ?
Et encore une fois, bon, on m'a expliqué les règles, donc j'ai pas lu, donc ça se trouve on m'a mal expliqué. Hein. Bon, on jouait, chaque joueur jouait tout d'un coup. Bon, alors, dit, encore une fois, ça change pas grand-chose.
Alors ça, hein, c'est expliqué, ça pour le coup, c'est pas une erreur de règle, c'est une version... c'est une version accélérée, on va dire, pour que ça prenne moins de temps, tout le monde touche d'un coup. Parce que l'intérêt de les jouer tour par tour, ça permet quand même d'anticiper un peu ce que les autres font. Tu vois, si quelqu'un met un tréface caché, bon bah, si chacun fait son truc dans son coin, tu peux moins anticiper ce que les autres font, à savoir s'ils mettent des traits.
En fait, on jouait quand même chacun notre tour.
Ah d'accord,
on jouait chacun notre tour, mais toutes nos cartes.
D'accord, ok. C'est peut-être ça en fait, c'est peut-être moi qui raconte une connerie. C'est chacun son tour, mais toutes les cartes, je crois. Et c'est après, c'est au niveau de la récupération de la nourriture que c'est tour par tour. Oui, effectivement. Je vais peut-être raconter une connerie. C'est chacun son tour et on joue toutes nos cartes. C'est bien ça.
Ça ce serait juste un peu plus long, mais ça ne changerait pas grand-chose.
Mais c'est bien de pouvoir anticiper ce que les autres ont fait avant de jouer. En fait, il y a un premier joueur et qui est tournant à chaque... À chaque manche, on va dire, le premier joueur change. Et donc, une fois que tout le monde a joué ses cartes, on va dévoiler les traits qui ont été joués. Alors, il y a des traits spéciaux qui permettent de récupérer de la nourriture directement. Par exemple, il y a un trait qui s'appelle long coup, je crois, qui, avant qu'on commence la phase de récupération des nourritures, permet à l'espèce qui a long coup de récupérer une nourriture dans la réserve. Pas au niveau du point d'eau, mais dans la réserve générale. Et ensuite, en partant du premier joueur, chacun son tour va pouvoir prendre une nourriture sur le point d'eau et alimenter ses espèces. Donc chacun fait ça. S'il y a des carnivores, bah, ils regardent s'ils peuvent attaquer des gens. S'ils peuvent attaquer des gens, bah, ils le font. Ils récupèrent une nourriture dans la réserve générale et la population de cette espèce diminue de 1. Et on continue les tours comme ça jusqu'à ce que tout le monde soit nourri ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nourriture dans la réserve. Donc en fait... Pour chaque espèce, il va falloir avoir une nourriture par nombre d'individus. Donc vous voyez que là, plus le nombre d'individus est grand, plus on va pouvoir collecter une nourriture. Cependant, s'il y a une pénurie de nourriture au point d'eau et qu'on ne peut plus nourrir notre espèce, par exemple, si mon espèce a 6 individus et que je n'ai pu récupérer pour cette espèce que 2 nourritures, eh ben, mon espèce va diminuer à 2 individus. Tous les individus que je peux
pas... Ça fait mal.
Ouais, tous les individus que je ne peux pas nourrir vont mourir. Et voilà, les carnivores, si par exemple j'ai un carnivore de taille 1 et que tous mes adversaires sont de taille 1 ou supérieure, bah, je vais pas pouvoir en bouffer, donc mon carnivore va mourir. Même si j'avais 3 individus carnivores, ils vont mourir. Donc le but, c'est d'avoir beaucoup de nourriture à cette récupération. Donc s'il n'y a pas beaucoup de nourriture au point d'eau, ça peut être intéressant d'être carnivore parce qu'on ne passe pas par le point d'eau pour se nourrir. S'il y a beaucoup de nourriture, c'est intéressant d'avoir des populations avec beaucoup d'individus et des moteurs comme ça qui vont vous permettre de récupérer beaucoup de nourriture. Et en fait, à la fin de chaque tour, toute la nourriture qui a été mangée, on la met dans un petit sac. Il y a un petit sac en toile qui est assez joli dans le matériel. Et ça nous sauvegarde, on va dire, cette nourriture pour la fin de partie. Et à la fin de la partie, on fait, je ne sais plus combien de manches il y a exactement.
Ah, tu finis le tas de cartes, en fait.
Ah oui, c'est jusqu'à qu'il n'y ait plus de cartes, ça, jusqu'à que les 129 cartes soient terminées. Si sur le dernier tour, il manque des cartes, on les remélange quand même, on redistribue, mais c'est, la dernière manche. Et à la fin, en fait, on va regarder dans le petit sac qui a le plus de nourriture. Je crois aussi qu'on gagne des points pour chaque espèce encore en vie et pour chaque trait qui est encore associé à une espèce.
Tu ajoutes tes niveaux de population, tes niveaux de taille et ton nombre de cartes traits.
C'est ça. Et donc tout ça font des points de victoire et celui qui en a le plus a gagné. Donc voilà pour les mécaniques. Donc c'est assez malin puisqu'il n'y a pas grand chose finalement, mais ça marche très bien en fait. On peut comboter avec les différents traits. Il y a des traits qui, comme je vous l'ai dit, permet le trait coopération par exemple. À chaque fois qu'une espèce va prendre une nourriture, son espèce qui est voisine de droite, puisque moi je vais arranger mes espèces comme je veux quand je la crée, je la mets à droite ou à gauche de l'espèce que j'ai déjà ou des espèces que j'ai déjà. Et donc il y a des cartes de traits qui vont permettre de coopérer. L'espèce qui prend une nourriture va en donner automatiquement une à celle de droite. Il y a des espèces fertiles, c'est-à-dire qu'au début de chaque tour, la population va augmenter de 1 automatiquement. Il y a plein de traits comme ça qui peuvent se mettre les uns avec les autres. Il y a des traits défensifs comme je vous le disais. Il y a par exemple horde défensive en fait qui permet de... où la taille est égale à la population fois la taille je crois, ou un truc comme ça. Enfin, ça permet de défendre plus facilement contre les carnivores. Voilà. Et donc c'est des jeux où on peut très bien jouer sans agressivité. Les carnivores sont pas... Enfin moi j'ai fait une partie où il y a eu assez peu de carnivores finalement. Et donc là,
des gens trop gentils à la table.
Ouais, mais là, dans ce cas, c'est à celui qui fait le meilleur combo. Et puis bon, après, on peut embêter les gens quand même en faisant de la pénurie. Si moi, par exemple, j'ai des longs coups avec assez peu de population, je vais automatiquement récupérer de la nourriture au début, sans passer par le point d'eau. Et donc là, je vais avoir des cartes qui vont permettre. Je vais jouer des cartes qui vont permettre un peu d'assécher le point d'eau au niveau de nourriture. Mmh. Et donc il y a des gens qui vont perdre leur espèce. Parce qu'ils peuvent pas les nourrir. Enfin, après, il y a toujours des carnivores qui arrivent un petit peu. Hein. Et voilà, à quel moment, toute la subtilité, c'est de savoir à quel moment je mets les carnivores, comment je les mets, comment je me défends s'il y a d'autres carnivores, est-ce que je fais une multitude d'espèces avec peu de traits et peu de population et de taille, ou alors est-ce que je me concentre sur une ou deux espèces que je vais faire vraiment très puissantes avec beaucoup de population, une grosse taille pour me défendre contre les carnivores et tout ça. C'est très malin, ça marche très bien.
Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le jeu, c'est qu'il est hyper thématique, en fait. Enfin, ouais. Tu as vraiment la sensation
de faire, créer des espèces.
Et t'as des effets de, comment dire, de vase communicante, en fait. C'est-à-dire que, en fonction de ce qui se passe dans la partie, des espèces qui sont créées, t'as des sortes de contre-espèces qui sont créées. C'est-à-dire que t'as vraiment un reflet de la vie d'un écosystème, en fait, qui se crée.
Ouais, qui se crée, qui, avec des extinctions, des apparitions, des espèces qui deviennent dominantes et qui restent pendant toute la partie.
Et tu vas avoir, typiquement, les carnivores, ils vont avoir cet effet-là de Inès. Ils vont prendre le pas sur certaines espèces qui vont crever et les autres espèces qui vont rester, elles vont devoir entre guillemets s'adapter.
Elles vont s'adapter, ouais.
Et du coup, elles vont utiliser des traits qui vont aller à l'encontre de ce carnivore. Donc, par exemple, dans la partie que j'ai faite hier, il y en a eu deux carnivores dans la partie, mais il y en a un qui s'est très vite éteint. Le premier carnivore qui est arrivé, tout de suite, on a vu les joueurs jouer sur les défenses en horde parce qu'ils avaient beaucoup de population. Donc du coup c'était un trait qui marchait bien pour contrer ce carnivore.
Ouais.
Cette limite aussi à 3 traits, ça fait que tes espèces ça devient pas des moutons à 5 pattes quoi.
Elles
ont une vraie limite. Du coup quand le carnivore il a atteint ses 3 traits, tu le connais, tu sais ce qu'il faut faire pour le contrer.
Et puis tu dois faire des vrais choix dans les mélanges de traits que tu fais, enfin tu peux pas dire. Enfin, si tu peux les changer après, si t'as envie, tu peux remplacer un trait par un autre.
Tu peux remplacer un trait, mais, tu peux le faire, t'es
sûr? Ouais, ça je suis sûr, tu peux le faire, ouais, je crois.
Ah ouais, bon, on a pas joué avec ça.
Ouais, tu peux enlever un trait pour en mettre un autre à la place.
Je trouve ça antithématique là pour le coup, tu vois. Je suis déçu.
Bah, alors pareil, j'ai pas lu les règles, hein, c'est ce qu'on m'a expliqué, alors il y a peut-être aussi des erreurs dans les règles. Hein.
Pareil, donc on saura pas qui a raison. On va demander à nos auditeurs de nous le dire dans les commentaires.
Je lirai les règles.
enfin, en tout cas, cette limite à trois traits, comme je disais, elle est vraiment, elle permet de, il a ces trois traits là. Alors bon, à voir cette règle, effectivement, si tu peux te réadapter ou pas, mais, du coup, tu connais le carnivore, et par exemple, hier, le carnivore qu'on avait était pas grimpant, du coup, pouf, on a vu, dans le même tour, deux espèces grimpantes arriver parce que c'était un moyen de créer une nouvelle espèce sans pouvoir se faire attaquer, quoi.
Ouais. Et ce qui est marrant aussi, c'est que tu peux avoir des espèces qui sont plutôt herbivores, qui marchent bien, qui ont que deux traits, et tu vois que ton adversaire au fur et à mesure monte la taille de l'espèce, sans pour autant avoir de caractéristiques
qui vont avec,
et tu te dis bon, lui il va me claquer un carnivore et il va avoir un carnivore avec une grosse taille, et du coup ça va être super dur de contrer. Donc tu vois tous les gens qui commencent à monter la taille de leurs espèces pour essayer de contrer ça, ou de mettre justement des traits défensifs, et c'est un jeu qui est où tu dois t'adapter en permanence. C'est un jeu avec de l'opportunisme et surtout, enfin de l'opportunisme mais surtout de l'adaptation. Tu dois vraiment En fait, tu peux pas programmer ce que tu vas faire durant toute la partie. C'est même si l'interaction n'est pas hyper forte, tu dois sans cesse t'adapter à ce que les autres font. Et donc dès qu'il y a un carnivore qui sort, bah là c'est branle-bas de combat, tout le monde doit s'adapter. Le carnivore, il arrive peut-être à faire un tour excellent, et au tour d'après, il va être beaucoup moins rentable, il va commencer à il va commencer à disparaître. Et donc là, il y a un autre joueur qui va jouer un carnivore. Et on peut réussir aussi à faire des herbivores qui sont assez puissants et qui ont des mécanismes de défense assez intéressants. Par exemple, je crois qu'il y a un trait qui s'appelle je sais plus comment
la
il s'appelle. Non, pas la corne, c'est hurleur, ou en gros c'est l'espèce
le cri d'alerte.
Le cri d'alerte, voilà, l'espèce prévient en fait les espèces voisines
qui sont à côté d'elle, ouais.
Voilà. Donc si tu fais si tu arrives avec le cri d'alerte plus plus l'espèce qui a le cri d'alerte a encore une autre caractéristique défensive, bah le carnivore pour pouvoir t'attaquer, il va devoir mettre des traits spécifiques, un trait qui justement qui annule le cri d'alerte plus le trait grimpant pour la troisième espèce. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de possibilités.
Et ce qui est combinaison.
Ouais, et ce qui est rigolo dans le jeu, moi j'ai vu la VF, t'as un petit derrière l'aide de jeu, je crois, ou enfin t'as un petit tableau qui est assez rigolo en fonction des deux traits dominants de ton espèce. T'as des noms scientifiques et donc tu peux faire le nom de ton espèce, tu peux nommer ton espèce. T'as pour chaque trait en fait t'as un préfixe et pour chaque trait t'as un suffixe, et donc tu prends le trait dominant en premier, le suffixe, et le trait dominant deuxième le préfixe puis le suffixe, et tu crées le nom de ton espèce en fait.
D'accord,
je trouvais ça rigolo. Ça c'est absolument pas un élément de gameplay, mais
ça sert à rien, mais c'est rigolo.
Ouais.
Ouais. Mais c'est aussi un truc que je voulais dire, ouais, c'est assez amusant aussi d'essayer d'imaginer ce que peut être ton espèce par rapport à une espèce réelle.
Oui.
Et bon bah la plupart du temps tu trouves pas, hein, donc tu fais ah ben ça c'est un mix entre un ours et un loup, tu vois, par exemple, je sais pas. on avait un ours qui chassait en meute, tu vois quoi, ça c'était.
Mais ouais, c'est ça qui est rigolo sur les illustrations aussi, c'est que c'est des espèces qui n'existent pas vraiment, mais sur lesquelles tu reconnais des caractéristiques d'espèces connues, quoi. T'as des espèces de mélange de lapin, souris, kangourou, t'as des espèces de mélange hippopotame, zèbre, enfin voilà, de tigre, de loup, de hyène, enfin sur les illustrations t'as aussi ce côté hybride entre des... Tu reconnais des traits d'espèces connues, mais c'est mélangé avec d'autres...
Et qui reste super réaliste, quoi, finalement.
Ouais, super réaliste, ouais, je suis d'accord.
Non mais c'est bon, voilà, moi j'en ai fait que deux parties, et bon là c'est assez frais dans mon esprit parce que j'en ai fait une hier, mais j'ai trouvé le jeu vraiment vraiment chouette, quoi. Alors je sais pas ce qu'amènent les extensions exactement. Alors, je sais que Funforge a choisi, il me semble, de faire Climate avant de faire
Flight, ouais.
Flight, ouais.
Il me semble aussi, ouais.
Je sais pas pour quand.
Je sais que dans Climate, en fait, je crois que le point d'eau est remplacé par un plateau, du coup, avec les climats. Et à chaque manche,
ouais,
ça peut varier, en fait, entre chaleur torride, grand froid, tu vois. Et en fonction de la taille, quand il fait très chaud, c'est les animaux de grande taille qui souffrent, quand c'est climat froid, c'est plutôt les animaux de petite taille qui ont du mal. Enfin voilà, il faut s'adapter en fait en fonction du climat. Et puis Flight, c'est essentiellement des traits justement qui sont en rapport avec les espèces.
Ça doit splitter un peu tes espèces en deux, quoi. Tu dois avoir les volantes d'un côté, du coup, et les rampantes entre guillemets de l'autre, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis voilà, l'aspect vol permet d'éviter les carnivores, à part s'il la vole aussi, et puis voilà, ça te crée tout un tas de traits en plus. Enfin voilà pour Evolution.
Ouais, tu nous rappelles le...
Ouais, j'ai pas fait toute la fiche analytique tout à l'heure, donc je vais le rappeler, mais donc Evolution, c'est un jeu pour sa version, pour la version que je vous ai présentée, de Dominique Krapuchette, donc sur une idée originale de deux biologistes russes. C'est illustré par Catherine Hamilton, une naturaliste. C'est édité en France par Funforge. C'est pour 2 à 6 joueurs. C'est des parties, on va dire, entre 1 heure et 2 heures. Et c'est chez Philibert à 50 euros, je crois, prix public.
D'ailleurs, t'as joué à combien, toi ?
J'ai joué à 4.
T'as joué à 4, hein. J'ai joué à 4 aussi hier, et je crois qu'Aison c'était dans ces eaux-là aussi. Donc du coup on pourra pas trop vous en dire plus sur les versions 2 ou les versions extrêmes 2 ou 6.
Ouais.
Ouais, je pense que 6 c'est pas un problème.
Non, 2 ça doit être un petit peu plus un petit peu, bah, ça doit être un peu plus stratégique en même temps, parce que t'as vraiment une confrontation.
Ouais, t'as un peu moins d'interaction, j'imagine, mais enfin sauf à mettre. Ouais, tu me diras, à partir du moment où il y a un carnivore.
Bah ouais, à deux, le carnivore il peut manger que chez ton adversaire, quoi, tu vois, il a pas plusieurs ouais. possibilités.
Bah, alors, doit... oui, alors non, parce que s'il peut pas bouffer chez l'adversaire, il bouffe chez toi.
Ah oui,
hein.
C'est vrai qu'il bouffe chez toi.
Ouais. Donc ça aussi c'est un truc, c'est assez rigolo, mais bon, il fait pas de hein, de votre carnivore, il fait pas la distinction entre si c'est tel dieu qui a créé telle espèce ou si c'est tel autre, hein, donc il bouffe chez n'importe qui, hein.
C'est vrai.
Ouais, on peut s'auto-amputer avec un carnivore.
En tout cas, c'est un jeu voilà, que je trouve étonnamment simple dans ses règles. Enfin, c'est expliqué vraiment assez rapidement, c'est pas compliqué à comprendre. Et qui a une profondeur et une richesse dans les stratégies et dans les combos qu'on peut faire avec les différents traits, qui est vraiment très intéressant. C'est vraiment un jeu sur lequel faut jeter un coup d'œil si vous n'avez pas encore vu passer.
Ouais. Avec des graphismes très chouettes.
Ouais.
Alors la boîte, moi je trouve c'est peut-être un peu cher, 50€, mais bon.
Ouais.
Il y a les plateaux des espèces, il y a les petits sacs. Bon, les sacs étaient peut-être un peu dispensables, mais bon.
Oui, les plateaux des espèces sont des petits plateaux cartonnés, du coup, et je crois que c'est avec un double niveau de carton, puisque dedans, ou troué en tout cas, perforé, parce que dedans, on vient mettre des petits cubes en bois, du coup, qui vont permettre de monter les échelles de population ou de taille. Donc y a pas mal de matos quand même. Le truc c'est qu'il y a, je crois, il y a facilement, je sais pas, une connerie, mais il y a facilement une trentaine ou de plateaux espèces, comme tous les joueurs peuvent en faire plusieurs. Il y a du coup autant de cubes en bois fois deux.
Il y a les cubes en bois, il y a les jetons de nourriture.
Il y a des centaines et des centaines.
Il y a un brontosaure qui sert presque à rien.
Ouais, il y a un gros brontosaure qui est le pion premier joueur, qui sert pas à grand chose. Les sacs servent pas à grand chose non plus. C'est peut-être, oui. Après, t'as les cartes sont de très bonne qualité, hein. Il y a 129 cartes qui sont de...
Il y a des aides de jeu aussi, et oui. ça c'est plutôt pas mal, parce que du coup moi j'ai pas spécialement joué avec, parce que bon surtout sur une première partie tu joues avec ce qui tombe, hein. Parce qu'il y a quand même une dimension hasard qui est pas complètement négligeable, hein. On peut pas non plus je veux dire, si on veut le trait grimpant pour mettre sur son carnivore, parce que tout le monde a un grimpant autour de la table,
oui,
si
on l'a pas,
on l'a pas,
hein.
Voilà, et ça reste un jeu de cartes quand même à la base.
Ben, c'est un jeu d'optimisation et d'opportunisme aussi.
Ouais, il y a beaucoup d'opportunisme en fait, mais franchement c'est chouette et c'est hyper thématique. Enfin, pour un jeu de gestion, parce que c'est quand même un jeu de gestion, la thématique elle est très forte.
Ouais, c'est très bien retranscrit en tout cas. Voilà. Bon
ben merci.
Merci à toi, merci aux auditeurs. Et puis on se retrouve du coup le mois prochain pour un nouveau numéro du jeu du mois. Et puis en attendant,
jouez bien.